1784.
Qu'est-ce que c'est Pourim?
Alors Pourim, comme ça dans notre imagination, c'est de la simra qui explose, de la joie. Et pourtant, Zman Simra de nous, c'est Sukkot normalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de la joie à Pourim? Ensuite, Pourim, on se déguise. Oui. Venant à Fochou. Oui. Les situations révèlent ce qu'elles avaient de profond et c'était le contraire de ce qu'on croyait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Zman particulier à Pourim? Qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on veut dans cette fête de Pourim? Et comment la fêterons-nous correctement? Vous savez que normalement, chaque année à la même époque, vient une bracha particulière qui descend du ciel à la date de la fête. À Pessah, il descend une influence de libération. À Shavuot, une influence de Chochma. Et ainsi de suite, chaque fête, elle descend une bracha particulière. Et maintenant, même les fêtes sont des Rabbanan. Pour les Hanouka, nous avons acquis les fêtes et acquis le droit de faire descendre une bracha particulière à Pourim. Qu'est-ce qui se passe à Pourim? L'histoire de Pourim, d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement à Pourim? Alors, il y avait un roi qui venait de prendre, qui vient de monter sur le trône, qui s'appelle Ahasverosh, oui, et qui, comme il était tellement content parce que c'était un roturier, un bonhomme qui s'occupait des chevaux, il a voulu afficher sa réussite, et donc pendant une demi-année, il a offert un magnifique festin à tous les gens de Shushan, de la ville de Suse. Oui. Et tout le monde venait, et les gouverneurs des provinces venaient, etc. 6 mois de festin. Il y avait un problème, c'est que ce festin, il a été fait dans les Kelim du Beit HaMikdash. Et que donc, il a invité les Juifs aussi à venir manger dans les kélim et à boire dans les kélim du Beit HaMikdash. Oui. Et c'est pas bien. C'est pas bien, oui. Mais les Juifs se sont dit, il vaut mieux ça plutôt que de se bagarrer avec le roi. Oui. Et Akash Boukou n'était pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Et ce qui va se passer, c'est que le premier ministre de ce roi Haman va monter. Il va se débarrasser de Vashti, la reine qui était la compagne du roi à ce moment-là, Vashti. Et il va faire monter une personne qu'il pensait plus malléable, qui s'appelle Esther, qui va devenir la reine, la chavrée. Okay. Et donc, il pensait diriger mieux en ayant mis ses pions dans l'environnement de Ahasverosh, d'accord? Et comme il détestait les Juifs, particulièrement, et qu'il était devenu très riche et très puissant, il a acheté au roi le droit de tuer tous les Juifs. Il a acheté cher. Haman a acheté cher le droit de tuer tous les Juifs. Oui. Et il s'est avéré, donc, et c'était imparable, il y avait pratiquement 127 provinces étaient entre les mains de Ahasverosh. Et donc, les Juifs de partout allaient être anéantis. Oui. Partout allaient être anéantis. Et vous savez que la situation s'est renversée. La femme qu'il a mise sur le trône, Esther, s'est avérée être la parente de Mordechai. Oui. Mordechai s'est opposé à Haman. Et la reine Esther, finalement, a convaincu Ahasverosh qu'il fallait laisser les Juifs, le décret d'extermination devait être évoqué, et que c'était plutôt les amis de Haman qu'il fallait tuer. Et donc la situation s'est renversée, et c'est ça dans la photo, oui. Fermez la porte, s'il vous plaît. Oui. La situation s'est renversée, et les Juifs ont été sauvés. Mais la question qui se pose, c'est pour quelle raison avons-nous dû souffrir d'un décret d'extermination? Vous vous rendez compte de la pression? Les gens qui sont fragiles, oui, c'est une tension gigantesque, oui, un décret d'extermination. Haman, oui, avait fait signer au roi un décret d'extermination. Pourquoi? Bechol dor vador omnim aleinu lechaloteinu. Ne croyez pas que ça ne sera pas comme ça. À chaque génération, un se lèvera pour dire « Faut anéantir les Juifs ». Chaque génération. Bechol dor vador omnim aleinu lechaloteinu. Ve hakadosh baruch hu matzinenu le'adam. Hakadosh baruch hu nous sauve de leur. tout cas, mais pourquoi ce décret d'extermination? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été interrogé par ses élèves. Oui. Mais avant ça, je voulais vous dire, donc ils ont été sauvés de manière miraculeuse, la situation s'est complètement renversée. Mordechai, qui était l'ennemi juré de Haman, que Haman voulait le tuer, c'est lui qui est devenu premier ministre. Oui. Et Haman est mort, il a été pendu à l'arbre sur lequel il voulait pendre Mordechai. Et donc, et les Juifs ont été libérés, et les ennemis, on les a tués. Le problème, Mordechai a donc écrit une igérette, une lettre, qu'il a envoyée dans toutes les provinces, et on dit que c'est la Megillat Esther. C'est ça qu'il a écrit. Et dans cette Megillat Esther, il y a une particularité. Alors que nous avons été sauvés de manière invraisemblable, miraculeuse, inouïe, eh bien, malgré tout, il n'a pas écrit le nom d'Hachem dans cette Megillat. Nous, si on avait vécu une histoire comme celle de Mordechai, on aurait mis Dieu Hachem partout. Hachem, il a fait ça, Hachem, il n'a pas fait ça, Hachem, il a tiré, etc. Pas du tout. Il n'y a pas une seule fois le nom de Hachem dans la Megillah. Bien sûr qu'il est par allusion. Oui, bien sûr que c'est marqué à Meller. Et le Meller, c'est une... C'est ambigu. Est-ce que c'est le roi roi ou est-ce que c'est le roi dans les cieux? Donc c'est vrai. C'est vrai que c'est comme ça. Oui. Mais il n'a pas mis le nom d'Hachem. Mais pourquoi il n'a pas mis le nom d'Hachem? C'est bien Hachem, non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne met pas le nom d'Hachem? La normalité, c'est qu'on écrit quand on raconte l'histoire. Quand on raconte l'histoire. Quand on raconte l'histoire, évidemment qu'on parle d'Hachem. Pourquoi il n'a pas mis le nom d'Hachem? C'est quoi la Kavana? D'accord? On a interrogé Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a été interrogé par ses élèves. Il lui demande pour quelle raison les Juifs ont été, enfin, je ne veux pas dire les Juifs, le contraire des Juifs, a été, dans cette génération, a été condamné à l'extermination. Et tous les élèves ont répondu, ils ont mangé dans les kélim du Beit HaMikdash. Ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Oui. Et donc, ils ne devaient pas manger dans les kélim du Beit HaMikdash. C'est ça, c'est Kadosh. Pourquoi ils ont mangé là-bas? Et donc, ils ont reçu une xéra, comme quoi ils sont anéantis. Les élèves ont dit, non. Les gens de Shushan, de Suze, eux, ils ont mangé, oui. Les autres, c'est les gouverneurs, machin, ça frappe, etc. Mais les autres, pourquoi? Tous les Juifs de tout le royaume, qui, même ceux qui n'ont pas mangé au festin, qui n'avaient pas été invités au festin du roi, ceux-là aussi, ils sont susceptibles d'être discriminés. Pour quelle raison? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai leur a répondu. C'est parce que le précédent roi, qui s'appelle Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, oui, il avait une statue qui faisait 61 mètres, 36 mètres, à peu près de hauteur. Et à l'époque, il a demandé à Daniel de se prosterner à la statue. Daniel lui dit, pourquoi une statue? Oui. Alors il dit, non, elle est vivante, la statue. Elle est vivante, la statue. Et effectivement, la statue parlait. Et la statue parlait. Pourquoi elle parlait? Je vais vous dire pourquoi elle parlait, la statue. Oui. Et il lui dit, mais pourquoi alors ils ont mérité le miracle si ils se sont prosternés, les Juifs se sont prosternés à la statue? Tous les Juifs, pas ceux de Shushan seulement, de toutes les provinces sont prosternés à la statue. Alors, ils ont demandé, mais alors à ce moment-là, pour quelle raison que je vous roule leur a pardonné? Au veau d'or, on a vu ce que ça a donné. Oui, pour quelle raison maintenant ils se prosternent à des statues et leur a pardonné? Réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sont prosternés pour la forme. Vous entendez bien? Se sont prosternés pour la forme. Oui, bien sûr. Non, ça c'est par crainte. C'est pour, non, pour la forme, pas par crainte. Pour la forme. Non, ça c'est crainte. Pour la forme, c'est autre chose. Hein? Ouais, sans faire un beau d'azard dans leur tête. Ils se sont prosternés en vérité cette statue avec une. Ils avaient une. Elle a une particularité. Comme le frère Nessar avait l'équilibre du Beit HaMikdash, oui, il y a le Kohen Gadol, il a le tis qui met sur le front, sur lequel c'est marqué Kdosh Hashem. Oui, d'accord. Il a marqué le nom d'Hashem. D'accord. Et donc, en mettant le frère Nessar, il a été intelligent. dans la bouche de cette statue, il a mis le tzitz. Et la bouche, il l'a amené des orchestres, machin, etc. Il a fêté la statue et le tzitz. Et le tzitz parlait dans la bouche de la statue. Les instruments, les kélim sont vivants. Oui. Avant le vaudois, nos mains étaient vivantes. Toutes seules, elles faisaient une vivante. Puis la lâche, elle fait une vivante. Oui. Et donc, c'est vivant. Non, mais non, on traîne. Heureusement qu'on a le voile qui tient le tout en l'air, parce que sinon, c'est un chien.
J'ai pensé au bâton de Jésus.
Hein?
Au bâton d'un sorcier aussi. Il y avait un bac d'oiseau, je ne sais pas quoi, qui parlait.
Mais... Oui, exactement. Donc, la matière peut être animée pour les gens qui ont une haute spiritualité, dans le noir comme dans le bien. Oui.
Pourquoi il
a récupéré tous les instruments, tous les kélim du Beit HaMikdash. Lui, il n'a pas fait ça. Et il a mis le tzitz dans la bouche, et là, donc il parlait. Oui. Il lui a dit à Daniel, concentre-toi, regarde, c'est spécial quand même comme truc, non? Et Daniel, il a tout de suite compris, et les Juifs ont tout de suite compris, qu'une statue qui faisait 36 mètres de hauteur à l'époque, elle ne tient pas debout. Il faut une structuration qui ne lève pas. Et donc, ils ont compris qu'ils avaient pris du Beit HaMikdash ce qu'il fallait pour pouvoir faire tenir la statue debout et la faire parler. Ils ne se sont pas prosternés à la statue. Ils se sont prosternés au titre, ils avaient tous cette cavana-là. C'est ça pour la forme. Vous voyez, ils disent, bon, il nous prend pour des idiots, des frappés, ça. Nous, on ne se prosterne pas à sa statue. On s'en fout de la statue, on se prosterne parce qu'il y a le tzitz dans la bouche de la statue. Et Daniel, Daniel a dit à Nebuchadnezzar, est-ce que je peux monter et lui embrasser la bouche? Il dit, pourquoi tu veux l'embrasser la bouche? Il dit, parce qu'elle parle bien, la statue. Dommage. Bien. La statue parle bien. Oui. Et donc, il dit, bon, vas-y. Il est monté naturellement avec des échelles, il est monté et il lui a enlevé de la bouche le tzitz. Il a enlevé le tzitz discrètement, oui. Il est redescendu. Il dit non, c'est pas pur. Ils ont mis des orchestres, des machins, etc. Et naturellement, ça a plus parlé. Mais, hein, et le vent est venu. Exactement. Exactement. Le vent est venu, j'allais oublier. Le vent est venu et a effondré la statue. C'est fini, elle avait plus, elle tenait plus. Elle tenait plus. Donc voilà ce que l'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Et donc, il a fait revenir les chanteurs, il a fait revenir tout ça, la statue n'a pas parlé, d'accord? Et donc, puisqu'ils se sont prosternés à la statue, vous n'oubliez pas la problématique, c'est que tant que on parlait des kélim du Beit HaMikdash dans lequel ils ont fait le festin, alors seuls les gens de Shushan HaBira, de la capitale de Suse, étaient concernés. Donc eux, qui ont des cris d'extermination sur eux, parce qu'ils sont allés manger dans les kélim, on comprend. Mais les autres juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Réponse, ils se sont prosternés à la statue. On demande à ce moment-là, pourquoi tu les as leur a pardonné? Réponse, parce que Hachem, il savait qu'ils sont prosternés pour l'argent. Tout le monde savait que ça ne tient pas debout, une statue de 36 mètres à l'époque. Ça, on ne sait pas faire tenir une statue de 36 mètres debout. Et donc, c'était pour la forme. Eh bien, pour la forme, décret d'extermination. Pour la forme, décret d'extermination, ça veut dire que le décret d'extermination fait qu'il va les sauver. Bien qu'il fallait un décret d'extermination pour pouvoir sanctionner le fait qu'il se soit prosterné à une idole, même si ce n'était pas vraiment une prosternation à une idole, mais une prosternation, ils se sont prosternés au tzitz, ils n'avaient pas à se prosterner. Donc, décret d'extermination. Mais puisque c'était pour la forme, oui, alors à ce moment-là, le décret d'extermination sera aussi pour la forme. Et c'est ça qu'il leur a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, quand il lui dit, mais alors pour quelle raison Hachem a montré de l'indulgence si tous se sont prosternés à la statue, il a répondu avec Rashi, pourquoi ils ont mérité ce miracle, hein? Il a répondu, ils n'ont fait cela que pour la forme. Il y en a qui disent par peur. Qui c'est qui a dit par peur tout à l'heure? Je ne sais pas. Ouais. Par peur. Mais pour la forme, vous comprenez qu'en vérité, ils savaient très bien que... Voilà. Voilà, exactement. Donc, quand je vous roule, il a dit, ah bon, vous faites pour la forme une prosternation à l'idole, mais moi, pour la forme, je vous fais un décret d'extermination. Oui. Pour la forme. C'est pour ça qu'il a été indulgent ensuite. D'accord? Voilà.
C'était la même génération?
Non, c'est la génération d'après. Ouais. Et donc, donc, mais un décret d'extinction n'est pas forcément applicable instantanément. Il peut être décalé. D'accord ? Et donc, ils se sont autorisés à se prosterner, et donc décret d'extermination. Maintenant, on a compris pourquoi il y a un décret d'extermination. Oui. Et pourquoi, oui. Même s'ils ont fait ça que pour la forme, on est loin d'être dans la normalité. Daniel, qui était du temps de Nebuchadnezzar, lui, il était Hatar du temps de Esther. Oui. Un de ses eunuques, un des serviteurs du roi, c'était Daniel. Cette fois-ci, il prend le nom de... Il s'appelle Hatar.
Comment?
Hatar.
Hatar Hapsophé.
Et Hatar Hapsophé. Hatar, vous le verrez dans la Megillah.
Il est vivant ou c'est un
vivant? Non. Daniel, oui. Et donc, il gérait toutes les affaires du royaume. Il était un ministre très plénipotentiaire. Lui, il avait plusieurs compétences, d'accord? Et c'est à Daniel. C'est ce nom qu'elle a donné à Daniel. C'est ce nom que la Megillah Tester donne à Daniel. Mais à partir du moment où elle a appelé Hatar, je suppose que tout le monde a appelé Hatar. Ils ont oublié que c'était Daniel. Et donc, lui, il était très important dans le royaume et il décidait de beaucoup de choses. D'accord ? Et ici, donc on a compris pour quelle raison il y a un décret d'extermination. On comprend que ce décret peut être mis en cause, car vu que c'était que pour la forme, et que c'était pas... Ils se sont prosternés pour la forme, ils ont mangé dans l'équilibre du Beth Amikdash, mais ils n'avaient pas une intention de manquer de Kavod Hashem. C'était formel comme truc. Que je vous crois faire un décret formel aussi, un décret terrible, un décret où on perd la vie de Dagot, de trucs, mais c'est un décret formel, d'accord? Et donc... Viens dans cette situation-là, on se pose la question, oui, quel rapport y a-t-il, on voit ici que nos gestes, d'une manière générale, à cause beaucoup les accompagne, que tilra alia de minra, comme l'ombre à ta main droite. Oui, il te suit dans tes cavanotes, dans tes intentions. Tu t'es prosterné pour la forme, je vais faire un décret d'extermination pour la forme, oui. Tu manges dans l'équilibre Betamigdash, tu vas voir ce qui va se passer pour toi. Mais maintenant, tu l'as fait sans kavana forte, c'est pas de vaudor. Oui. Donc, si tu fais tes chouvas, oui, alors à ce moment-là, hein, je remets en cause le décret. Et vous voyez qu'ici, que l'apparence des choses, oui, elle n'est pas la vérité, la profondeur. Et d'ailleurs, c'est exactement le débat de Pourim. Dans Pourim, si vous voulez, à Massah Mribah, dans la Torah, les Juifs se sont disputés, ils ont posé une question terrible à Moshe Rabbeinu. Ils ont demandé à Im Yesh Hashem Bekir Benu O Aïm. Est-ce qu'il y a Hashem parmi nous ou non ? Je pose la question. Vous venez de sortir d'Égypte. Oui, vous avez vu toutes les makotes qu'ils ont reçues des Égyptiens. Vous avez passé la mer. Qu'est-ce que tu peux dire ? Comment tu peux poser une question ? Y a-t-il Hachem parmi nous, oui ou non? Les Rahamim disent, il faut comprendre la question. La question c'est parmi nous, c'est-à-dire pas toi, mon cher Abedou. On sait très bien que toi, par ton intercession, ton intermédiation, finalement, tu es capable de demander à Hachem de faire des choses invraisemblables. Mais nous, on ne peut pas. Un petit séisme sur la Terre, c'est le grand maximum de la Terre qui bouge, quand vous avez quoi, des du sang dans le Nil, du machin, etc. Nous, on ne sait pas. Oui.
À quel moment ils ont
posé cette question ? À la sortie d'Égypte. En fait, ils ont toujours eu peur d'être extrêmement dépendants de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, ils savent que tout homme ne vit pas éternellement, et que donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a plus quelqu'un de la dimension de Moshe Rabbeinu pour pouvoir conserver le statut spirituel que nous avons ? Et donc, la question n'est pas est-ce qu'Hachem est parmi nous ou il n'y a pas d'Hachem du tout ? Non. La question est du temps de Moshe Rabbeinu où il a fait des révolutions dans les lois de la nature. Mais nous maintenant, est-ce que c'est la loi de la nature ? Est-ce que c'est les lois de la nature qui vont nous dominer ? Les lois de la nature, c'est Hachem. C'est Hachem les lois de la nature. Oui ? Comme on dit, Elohim, Gematria, Hateva. Hateva, la nature, c'est le même Gematria que Elohim. Oui ? C'est pas la même Gematria que Hachem.
Et pourquoi ça les effrayait ?
De quoi ?
Que ce soit la naga de Hachem, si mon cher Abbé,
oui, ils avaient peur de n'être plus aptes à faire descendre des miracles comme ça sur terre. Et que donc quoi maintenant, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Moshé Rabbeinu, on ne sait pas, ça va durer, ça va pas durer, c'est quoi, Moshé Rabbeinu? D'ailleurs, vous avez vu que quand on est monté au Sinaï, oui, c'était clair que Moshé Rabbeinu a tardé un tout petit peu, on a dit ça, il va pas redescendre. Ils ont vu le cercueil de Moshé, présenté par le Satan dans le ciel, et ils ont dit, ça y est, Moshé ne descendra plus. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont essayé de regarder dans leur le livre des chroniques, dans leur livre à eux, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tourné les pages, et à la page 1250, ils ont trouvé, ah, il faut faire un vaudor. Oui. Un vaudor. Mais il faut se mettre à leur place. Ils ont vu des choses, même des miracles, des choses incroyables, exceptionnelles. Un miracle, nous, quand il y a un miracle, on dit « Ouh, c'est un grand miracle, etc. » Mais eux, ce qu'ils ont vu, c'est le miracle, c'est « on veut, tu en voilà, quoi. » Il y en avait partout, il n'y avait que ça, des miracles. Oui. Donc quand tu passes d'une situation dans laquelle il y a que des miracles, à, et que tu sais que c'est lié à la présence de Moshé Rabbeinu, tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors on demande, est-ce qu'il y a Hachem Bekirbenu parmi nous? Et nous, on n'est pas capable d'entraîner des modifications, des révolutions dans les voies de la nature comme ça. Alors, quelle est la réponse? La réponse a été, les lois de la nature sont contre les lois de Hachem. Ce que vous voyez comme étant naturel, en vérité, ne l'est pas. C'est la permanence des phénomènes et leur répétition qui vous laisse croire que c'est naturel et que donc il y a une nature, oui, mais c'est faux. L'histoire de Pourim, c'est cette révélation-là. C'est cette révélation-là. Il y a une clipa. On dit que normalement, vous savez que juste avant Pourim, on lit Parashat Zachor. Zachor, c'est Parashat où on doit anéantir Amalek. Amalek, c'est une clipa. Une clipa, entendez, c'est un écran qui nous empêche de comprendre les choses. On n'arrive pas à les comprendre. Oui, il y a un écran. C'est bloqué. Oui, on ne voit pas clair. Oui. Et la clipa d'Amalek est une clipa très épaisse et c'est la nôtre aujourd'hui. Elle est même chez les Juifs, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est que de croire que les lois de la nature sont immuables. Comme si la nature était un bloc en soi, totalement autonome. Il ne l'a peut-être pas été au début, mais maintenant il l'est, selon Amalek. Et donc la nature est admirable. Et la nature, il n'y a que ça de vrai. Et donc ils adorent les montagnes, ils tombent dans les précipices, mais ce n'est pas grave. Ils aiment les tigres, ils sont mangés par les tigres, ce n'est pas grave. Et je dis ça, il y a une nouvelle, où un Japonais, il faut comprendre qu'il y a une espèce de loi des niveaux. Un type qui aime particulièrement quelque chose, s'il a un niveau élevé dans cet amour qu'il a pour la personne, il s'est jeté dans le truc des tigres pour se faire manger par les tigres. C'est ça son. S'il est arrivé à son but. Oui. Ils aiment la nature. La nature est adorée comme quelque chose d'exceptionnel. Amalek dit Dieu a laissé les lois naturelles fonctionner. Arrêtez-vous, les juifs, de nous embêter. Que je vous continue. De diriger les lois naturelles. Oui, arrêtez. Arrêtez. C'est que ça, la nature, elle est belle. Vous avez aujourd'hui tous les écologistes et machin, etc., qui disent qu'il n'y a que la nature, il n'y a que ça. Oui, et que donc l'homme doit se soumettre. J'ai vu malheureusement quelqu'un de notre communauté qui est tombé d'une falaise de 170 mètres parce qu'il refusait, à cet endroit-là qui a provoqué plusieurs accidents, de mettre une barrière. Pourquoi? Parce que ça gâche la nature. Ça gâche la nature. Et on admire les loups, on admire les lions, on n'admire pas les rats, entre parenthèses. Hein. Et on admire les loups, les lions, etc. On admire la nature. C'est quelque chose de merveilleux, exceptionnel, etc. Et donc, on n'aime pas l'homme. À Amalek, c'est ça. Et comme, effectivement, apparemment, ils ont raison, les lois naturelles semblent immuables. Elles ne semblent pas pouvoir être mises en cause, sauf par des hommes de grande dimension. Oui. Alors, à ce moment-là, ils ne veulent pas entendre parler du juif qui vient déranger ce bel ordonnancement, qui vient dire oui, mais attends, c'est Hachem qui dirige, même les lois de la nature, etc. Oui. Et donc, ici, Haman, qui voulait anéantir les juifs et leur culture, et leur croyance, oui, et de la descendance d'Amalek. Haman, c'est Amalek. D'accord. Et donc, Haman portait haut le drapeau de nous, les juifs, ça suffit. Ça suffit, les juifs, on les anéantit, on va vivre avec les forces naturelles et on va les exploiter comme il faut. Il n'y a que ça. Et donc, il y a Dieu, il est quelque part, mais nous, il ne s'occupe plus de nous. Nous, les lois de la nature, c'est ça qui compte. Donc maintenant, il faut défendre la nature. La calotte glaciaire, elle est en train de fondre. On va avoir des mers qui montent, on va savoir où. Si on veut arrêter que la calotte glaciaire, elle fonde, ce n'est pas la peine de regarder dans les trous d'ozone. Hein. Vous n'avez qu'à demander qu'une moralité, la moralité redevienne normale sur Terre. La calotte glaciaire, elle sera refroidie. C'est tout. Puisque quand est-ce qu'il y a eu le déluge? C'est quand tout s'est dévoyé, tout est sorti de ses chemins. Donc quand est-ce que les eaux, elles montent? Les eaux, elles montent pour noyer les avérotes. Si tu veux, on devrait dire aux écologues, si vous voulez réellement que la calotte glaciaire ne fonde pas, que les mers ne montent pas, eh ben, je vous suggère très simplement de demander à tous ceux qui sont tordus, de faire tout voir. Ouais, de bien se lire. À ce moment-là, ça va baisser les trucs. Donc, ici, la Kajoukou, il a la maîtrise des choses matérielles. Il maîtrise les choses matérielles. Et les lois de la nature sont entre ses mains. C'est-à-dire que les variations ne sont pas aussi exceptionnelles que celles qu'il y avait en Égypte, où finalement de l'eau, c'est du sang, une grenouille, c'est un million de grenouilles, etc. La glace, elle est comme ça. Ce n'était pas des variations exceptionnelles de la nature, d'une remise en cause de toutes les lois d'une manière générale. Non, mais simplement que Kajoukou manipule les lois de la nature pour pouvoir l'amener là où il veut. Mon cher Abénou, d'ailleurs, quand il a lutté contre Amalek, mon cher Abénou, vous savez qu'on est sorti d'Égypte, on a rencontré Amalek. Lui, là-bas, il a dit, d'Aber et Bnissa, vous savez quoi, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez rien faire, c'est moi qui vous donne la possibilité de chasser la mer. Là-bas, comme ça qu'on a combattu, qu'on est sorti d'Égypte. Mais quand il s'agissait de combattre Amalek, il a dit à Yéhoshua, oui, prends ton bâton, le bâton d'Elohim, oui, le bâton de Dieu, Elohim, oh, le bâton de la nature, et va combattre naturellement Amalek. C'est-à-dire, Amalek, qui est très fort, dans son propre combat, sur sa propre nature, va le vaincre. Et il a demandé à Yéhoshua d'aller le vaincre. On demande pour quelle raison Moshe Rabbeinu n'est-il pas allé faire la guerre lui-même. Et parce que Moshe Rabbeinu, il est plutôt shayach, il est plutôt en rapport avec les miracles incroyables. Et que donc, lui, il levait les bras vers le ciel, et donc il priait, il combattait les forces mauvaises qui étaient dans le ciel. D'accord? Et Yéhoshua, qui n'est pas Moshe Rabbeinu, il combattait dans le bas les choses naturelles. Et donc, quand on combat Amalek, on conteste sa vision de la matérialité, qui est un voile gigantesque. On n'arrive pas à croire autrement. Même nous, on ne croit pas autrement. On a du mal. C'est-à-dire, si on vous dit, ben, naturellement, c'est comme ça que ça fait, on vous enseigne des lois. Toutes les lois, pas les lois physiques, les lois physiques, les lois chimiques, les lois économiques, les lois stratégiques. Il y a des lois. Il y a une nature. Et donc, vous dites, oui, je vais à l'école, c'est pour apprendre des lois. Et donc, je les applique. Bien, sachez qu'ici, on a une clipa d'Amalek comme ça, énorme, on n'arrive pas à la casser. Et on y croit. Et venu à Pourim, on dit, bon, tu crois Amalek? Voilà. Ça va mal se passer, parce que c'est Amalek qui veut te tuer. Oui. Et donc, quand on veut bien ne pas bouger tant qu'on n'est pas menacé, mais à partir du moment où il y a une menace sérieuse, alors à ce moment-là, on se lève. Et de la même manière que Yéhoshua bin Noun, il a combattu Amalek, avec les moyens de la nature, physiquement, prends des hommes forts, vas-y, et va combattre Amalek, et il les a gagnés, tandis que Moshe Rabbeinu combattait vers le haut, oui, et bien de la même manière, nous devons nous débarrasser de cette vision de la terre, de cette vision terrestre, qu'en vérité, la nature, elle est immuable et toute puissante. Cette clipa, cet écran, cette nous coupe d'Hachem. Nous devons clairement accepter l'idée que même les lois naturelles, oui, sont entre la main d'Hachem, et qu'Hachem beaucoup les remettra en cause, comme il le souhaite. D'accord? Maintenant, vous comprenez la question. Est-ce qu'il y a Hachem, Bekir Benou ou non? Est-ce qu'on va être, maintenant que Moshe Rabbeinu remonte, et il va à un moment partir ou non? Il va partir. Est-ce que Hachem va être parmi nous? Oui. Parmi nous, ça veut dire, est-ce que dans les lois naturelles que nous voyons, est-ce qu'on va pouvoir voir Hachem? La réponse à Pourim, c'est oui. Tu verras que dans un habillage matériel, derrière le masque de la matérialité des choses, il y a la main divine qui agit. Et donc, c'est pour ça qu'on met des masques à Bourg. Tout est masque, oui. Et derrière, on va chercher ce qu'il y a derrière le masque, l'intériorité, la puissance qu'il y a derrière le masque. Et c'est pour ça qu'à Bourg, à ce moment-là, vous avez une très grande joie, elle explose. Pour quelle raison la joie explose à Bourg? C'est qu'à partir du moment où les masques tombent, à partir du moment où la superficie cède et qu'on voit derrière la superficie la présence divine dans des endroits qui sont apparemment que naturels, la joie est immense. La joie est importante. Et c'est ça la fête de Pâques. Des questions ? Mais nous, dans notre guerre matérielle à nous, rien ne nous empêche de faire entrer à cause beaucoup dans les lois de la nature. On ne peut pas être comme Moshe Rabbeinu à rendre le Nil en sang, oui, ou enfin être l'intermédiaire qui rend le Nil, qui en fait du sang, mais oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un à qui vous avez téléphoné il y a quelques minutes. Vous pouvez voir un problème se résoudre de manière étonnante, oui. Mais dans le cadre de lois naturelles, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu manipule les lois naturelles, les infléchit de manière à ce qu'elles conviennent à ce que lui veut. Ça, on peut voir à une condition qu'on y croit. Pour Him, c'est de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre dans les lois naturelles et qu'il les manipule de manière à les amener là où il souhaite. Maintenant, Hachem est parmi nous, sans pour autant que la mer s'ouvre, sans pour autant que le Nil devienne du sang, ou que la grêle, elle soit due à un mélange de feu et de glace. Mais ça, votre travail, c'est de le voir maintenant. De comprendre dans le courant de votre existence qu'en vérité, vous êtes une suite de miracles.